Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui à la Grotte Chauvet et à la Baume-Latronne avec Jean-Jacques Salgon. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Alors nous nous connaissons depuis longtemps maintenant avec vos livres, avec Au Boc, avec La Place de l'Oie, avec votre participation à l'exposition sur Soleillet et Rimbaud. Mais là, il y a 2 mois, vous avez publié aux éditions Arléa des Crafts dans la nuit de la Grotte Chauvet à Judith Regel. Donc 2 mois après, on parle de ce livre qui est petit en format.
Oui.
Qui est un peu une... comment dire ? Votre regard, je ne sais pas si c'est un regard d'écrivain, si c'est un regard de scientifique, parce que vous êtes scientifique au
premier départ. Oui, c'est un peu les deux. Je pense que c'est un peu les deux, parce que j'ai à la fois une activité d'écriture depuis longtemps, mais en même temps une formation scientifique. Donc je pense que cette formation a influé quand même sur ma perception du réel et sur mon écriture.
Oui, dans la première émission qu'on avait fait ensemble, vous aviez insisté sur cette formation scientifique. Mais peut-être aussi cette frustration littéraire que vous arrivez à combler.
Oui, et puis là, de toute façon, maintenant, c'est bien installé, parce que j'ai publié mon premier livre en 93, donc ça fait un petit moment quand même.
Ouais. Et ce livre, alors vous le dites bien, vous êtes scientifique, mais vous n'êtes pas préhistorien, vous n'êtes pas historien, donc on ne va pas dire un tas de dates, hein, parce que la Grotte Chauvet, on n'en a même pas parlé, il y a un fac-similé maintenant, mais on ne parle pas du fac-similé, parce que vous avez eu la chance, et vraiment une chance incroyable, je vous envie de pouvoir aller dans la Grotte Chauvet, qui est totalement interdite maintenant, sauf à des scientifiques.
Oui, en fait, la chance, je l'ai eue, mais je l'ai un peu favorisée.
Vous l'avez sollicité.
Je l'ai sollicité, parce que quand j'ai su, c'était en 2004, 10 ans après la découverte de la grotte, j'ai su que la conservatrice de l'époque laissait... accorder des autorisations à des artistes ou des écrivains qui avaient des projets en rapport avec les peintures. Et j'ai fait une lettre, mais sans trop y croire. Je pensais qu'il allait falloir attendre, patienter, peut-être...
Il faut tenter.
Et voilà. Et j'ai eu la chance de recevoir une réponse très vite.
Alors, quel était votre projet ? Parce qu'il fallait tout de même étayer votre demande.
Ah non, j'ai simplement dit que j'étais écrivain, comme j'avais publié quelques livres avant. Ouais. Donc, il suffisait de les voir un peu ma bibliographie pour
toujours
faire
modeste,
une idée.
Toujours modeste,
Non, puis j'avais pas d'idée préconçue. J'étais un amateur, je suis toujours d'ailleurs de préhistoire, de peinture et d'art pariétal, mais je me souviens pas très bien, mais j'ai pas tellement argumenté. J'ai dit simplement mon désir de visiter, mon projet. Ouais. Et je pense que ça a suffi pour que.
Oui, puis c'était en 2004, je pense.
Voilà, ce serait. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile. D'ailleurs, j'ai failli faire une deuxième visite qui a été annulée avec un ami qui travaillait à l'intérieur de la grotte, mais c'est de plus en plus difficile.
Oui. Et puis, Baume-Latronne, qui est dans notre patrimoine régional. Oui. Alors là aussi, c'est un peu par des voies différentes. Là, c'est par des relations, par des connaissances.
Oui, en fait, c'est Claude Viala, le peintre nîmois, qui m'a le premier m'a parlé de ses peintures, qui sont plutôt des dessins d'ailleurs. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller les voir. Et je me suis débrouillé, là encore, grâce à mes relations, à avoir une autorisation. Et j'ai eu de la chance, là, parce qu'il y a eu une visite archéologique où une place s'est libérée. J'ai pu en profiter.
Alors, vous nous donnez encore plus de regrets, parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas y aller. Bon, il y a le fac-similé à Boc-Latronne.
Oui.
Qui est beaucoup plus ancienne, qui est beaucoup moins connue.
Oui.
Comment vous expliquez que Baume-Latronne soit moins connue que
Chauvet ? C'est moins connu parce que d'abord, il y a beaucoup moins d'œuvres.
Oui.
C'est très limité. Ensuite, je ne sais pas, c'est resté longtemps comme ça, ouvert d'ailleurs au public. Et puis ensuite, ça a été protégé, je crois, dans les années 80 et restauré parce que ça avait été beaucoup dégradé. Et il y a très peu de dessins, en fait. Donc ça explique, si vous voulez. Et puis il n'y a pas eu cette déflagration de la découverte de Chauvet avec tout d'un coup l'apparition de ces dizaines et centaines d'animaux. Là, c'est quand même un peu plus limité. Mais c'est des œuvres très intéressantes pour moi qui sont très différentes d'ailleurs de celles de Chauvet.
Alors, c'est vrai que ce n'est pas un livre de préhistorien, c'est un livre d'écrivain, c'est un livre personnel, c'est un livre qui a été fait par étapes. En fait, une sorte, un peu comme nous, c'est une sorte de dialogue avec l'éditrice où vous avez... c'est au gré de la conversation et au gré des événements.
Oui, oui. Oui, ça s'est fait un petit peu en plusieurs étapes, effectivement. Et là, par exemple, le dernier texte sur mon amie Julie Traigel, qui était une peintre que j'ai eu la chance de connaître aussi, et de connaître très bien. Et ça s'est fait comme ça, un peu au dernier moment, parce que bon, l'éditrice avait eu l'idée de mettre une reproduction sur la couverture du livre. Et du coup, j'ai eu très envie de lui rendre hommage à cette peintre qui venait de mourir, d'ailleurs.
À 97 ans,
et qui était une peintre connue internationalement maintenant, puisque ses œuvres sont dans les plus grands musées du monde, au MoMA, ou à la Tate Moderne, à Pompidou. Enfin bon, elle est malheureusement, comme c'est une femme, enfin, elle a été moins médiatisée que beaucoup de peintres.
Mais c'est vrai que j'ai dans la main votre petit en nombre de pages et en format. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ce titre, hein, des graphes dans la nuit. Alors le mot graphe, tout de suite, ça nous interpelle parce que c'est pas graffiti, mais ça fait penser à street art, ça fait penser à plein de choses. Dans la nuit, parce que c'est vrai que...
C'est dans l'obscurité de la caverne.
C'est dans l'obscurité, on imagine ces hommes... Ces femmes, je ne sais pas. Oui, il devait y avoir aussi des femmes.
Oui, certainement. On a même, je crois, identifié certains. Je crois qu'à Chauvet, il est pratiquement admis qu'il y a un dessin ponctué de qui est fait à l'ocre rouge, qui évoque la forme d'un bison et qui est dû à une main de femme, parce qu'on a pu analyser les dimensions, la morphologie des mains qui ont fait ces ponctuations, et il semblerait que ce soit une main de femme ou d'adolescent, mais bon.
C'est vrai qu'on ne décrit pas là ce que vous avez vu, c'est à nos auditeurs de soit ils ont visité le fac-similé, soit ils ont parcouru des livres, soit...
Puis maintenant, avec Internet, on peut aller tout de suite voir les images. C'est pour ça qu'on n'a pas mis, on a pris le parti de ne pas mettre d'images dans le livre, parce que finalement, les gens ont des tablettes ou des ordinateurs, ils peuvent, tout en lisant le livre, aller voir le tableau, par exemple, de Courbet dont je parle.
On va y revenir après. Mais là, pour l'instant, des graphes dans la nuit, parce que même moi qui n'ai visité que le fac-similé, qui est tout de même en lumière, ça n'a rien à voir avec un homme préhistorique avec ses torches. Comment vous avez visité
et c'est en fait les graphes, c'est en fait ce sont des œuvres urbaines pour la plupart et qui sont très rapides. En fait, c'est d'une facture assez rapide et spontanée. Et en fait, même à Chauvet, il y a je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une chouette qui est gravée dans l'argile et qui a été. Je crois que c'est Miquel Barcello, le peintre là. Catalan qui a reproduit ce dessin et il a montré qu'on pouvait le faire en je sais pas quelques minutes. Donc il y a aussi dans l'art pariétal des œuvres extrêmement rapides qui peuvent évoquer les grèves et particulièrement celles de Baume-Latrone qui sont des dessins digitaux polydigitaux faits avec les doigts. Et ses doigts ont été d'abord passés dans l'argile. On a trouvé l'endroit d'ailleurs où l'argile a été prélevée. Et ensuite, une fois que les doigts étaient chargés d'argile, et le dessin a été fait, mais très vite. Donc ces dessins de Baume-Latrone ont quelque chose de très furtif et de très évocateur de graphes.
Alors, je reviens à votre visite dans les deux cas. Vous aviez, je suppose, une lampe frontale.
Alors pour Chauvet, on avait deux éclairages. On avait un éclairage, je crois qu'on avait un éclairage frontal, mais avec deux types de lumière. Et en plus, il y avait le conservateur qui nous accompagnait, ainsi que Jean-Marie Chauvet, qui était là un peu par hasard. Enfin, pour ce qui me concerne.
L'inventeur
de la grotte. Et avait des projecteurs. Donc, vous pouvez nous montrer aussi de façon plus...
Donc, vous attendiez quoi? Vous étiez dans quel état d'esprit après avoir descendu 8 mètres sur l'échelle, une échelle?
De toute façon, on est déjà dans un état différent de l'état habituel, parce qu'on est dans un univers obscur de la caverne, on est sous terre, on est au milieu de ces concrétions, ces milliers de concrétions qui scintillent, parce que la grotte Chauvet est extraordinairement bien conservée aussi du point de vue des concrétions, puisqu'elle n'a pas été visitée. donc les concrétions n'ont pas été altérées ni abîmées. C'est une merveille du point de vue géologique déjà. Donc on est déjà conditionné par cette beauté de la nature par-dessus tout ça surgissent ces peintures. C'est quand même quelque chose d'assez fabuleux quoi, quand
c'était
on les voit
tout
apparaître.
De même encore un surgissement pour vous.
Oui, bien sûr, parce que même ce que, par exemple, on me montre au tout début de la visite, c'était un petit massif stalagmitique, donc de calcite, qui déjà évoque la forme d'un mammouth. Et ce mammouth, ou ces mammouths, ont été, disons, dégagés comme ça de leur gestation par une main humaine qui a tracé quelques traits à l'ocre et qui les fait apparaître. Et donc, il y a une espèce de dialogue entre ces premiers humains et ce que la nature avait fabriqué déjà, qui est assez fabuleux, quoi, parce que tous ces animaux semblent sortir aussi comme ça de la roche.
Alors, on ressent chez vous cette... on avait fait connaissance par Obok, qui est votre pèlerinage, j'allais dire, en Éthiopie. On s'est beaucoup vu aussi lors de l'exposition là, en Éthiopie. Alors, l'Éthiopie, c'est un des berceaux de l'être humain. Donc, en fait, vous ne sortez pas de votre chemin. On a l'impression qu'il vous...
Ce sont des pistes qui se retrouvent, qui se recoupent, qui me poursuivent, qui me rattrapent. Enfin, voilà.
Et qui vous plaisent.
Et qui correspondent à ma sensibilité, bien sûr. Ouais. Mais ça remonte à l'enfance, hein, avec mon père instituteur qui nous amenait voir les dolmens et les grottes néolithiques.
Oui, vous êtes ardéchois.
Oui, donc, voilà, l'Ardèche est un pays qui est très, en même temps, très stimulant pour tout ce qui est historique, parce que c'est un pays qui était marqué par les civilisations anciennes.
Donc, en fait, c'est ça, c'est une
et
vie...
D'ailleurs, quand on a découvert la grotte Chauvet, j'étais fou de joie, parce que c'était chez moi qu'on trouvait cette grotte.
Ah, oui.
Et il y avait quelque chose de très, très personnel qui était en jeu dans cette découverte.
Alors, on va écouter une musique éthiopienne contemporaine. Hein. C'est une chanson une chanteuse très populaire.
Oui, très populaire en Éthiopie. J'aime beaucoup cette musique très lancinante et très qui évidemment m'évoque mes voyages en Afrique et en particulier les taxi-brousses qui mettent souvent ce genre de musique.
Alors voilà, on est dans un taxi-brousse avec Figueradis Nekatibeb.
Oui.
Je crois que je l'ai à peu près bien prononcé. Donc, de la grotte Chauvet à l'Éthiopie. Zimga, Zamga, Bilefa, Binaga, Yanka, what mata, Yara, Radio Alliance Plus, nous revenons du Taxi Brousse de l'Éthiopie au studio de Radio Alliance Plus rue Claude Brousson avec Jean-Jacques Salgon. Il faut revenir un peu sur terre là, hein, j'ai l'impression. Hein, parce que c'est vrai, des graphes dans la nuit de la grotte Chauvet à Judith Regel. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je reprends, c'est une perception. C'est quand on lit votre livre, en fait, on voyage, mais en même temps, je trouve que c'est un voyage intérieur aussi. Mmh. Hein. C'est parce que, je vais dire, moi, j'étais un peu surprise de l'analogie que vous faites entre la grotte Chauvet...
Le grand panneau des lions et le tableau de Courbet...
D'Ornon, l'enterrement d'Ornon. J'ai trouvé ça un peu surprenant, mais comme je suis curieuse, moi aussi, j'ai lu. Mmh. Et en fait, vous avez écrit ce texte récemment, alors que le premier texte, hein, il remonte à une dizaine d'années. La suite, c'est récent. Mmh. Et en fait, vous avez voulu analyser ce qu'était une intuition. En fin de
Exactement, oui, parce que quand j'ai vu, je suis resté 10 minutes dans la fosse aux lions, mais en fait, c'était la salle des lions, c'est-à-dire celle qui l'a plus reculée dans la topologie de la grotte. Et en fait, je suis resté très, très peu de temps parce qu'on n'avait pas droit à dépasser 10 minutes à cause du CO2. Oui. Donc, c'était limité dans le temps. Mais ça a
10
été...
minutes, vous en avez profité.
Non, mais c'est quand on est face à cette... c'est une espèce de fresque horizontale avec des dominantes de noir, avec ces dizaines d'animaux... parfaitement représentés de façon très naturaliste et qui paraissent très vivants du fait du mouvement qui est induit par les mouvements des éclairages.
Et par la pierre aussi.
Et par la pierre aussi, par les volumes de la pierre qui ont été utilisés d'ailleurs par le peintre. Et en fait, là, j'ai tout de suite pensé à un enterrement en Inde par une analogie de composition, de dominante de noir, de format horizontal. Et c'est resté comme ça à l'état d'intuition. Et c'est vrai que 10 ans après, j'ai eu envie de... Je n'avais pas renoncé à ce parallélisme qui avait quelque chose de saugrenu, je reconnais, puisque il y a peu de rapport entre les Aurignaciens et un peintre du 19e siècle.
Oui, mais là, c'est la sensibilité de chacun.
Voilà, et on voit ces peintures préhistoriques, on les regarde avec nos yeux d'aujourd'hui. Mmh. On ne peut pas se mettre vraiment dans la peau de ceux qui les ont peintes. Mmh. Donc, il y a une traversée comme ça des siècles et des millénaires de peinture qui se fait dans notre imaginaire. Et j'ai aimé approfondir un peu cette correspondance entre ces deux œuvres. Et je dois dire que d'écrire le texte m'a permis d'aller un tout petit peu plus loin dans ce qui était au départ qu'une intuition.
Oui, et puis quand on le lit, même si on est passé la première surprise en disant « Mais pourquoi fait-il cette analogie ?» On continue et puis ça fait réfléchir à, c'est très à la mode actuellement, l'anachronisme, où on a un regard, comme vous venez dire, actuel, alors que c'était dans le passé. Ça peut être aussi de l'uchronie. Est-ce que c'est vrai, anachronisme, uchronie, fiction?
Oui, puis je pense que dès l'instant où quand on est dans le domaine de l'art, dans ce qu'il a de plus abouti et de plus fort, on est dans une intemporalité qui fait que les œuvres communiquent entre elles. Et je sais pas, c'est pas très original de dire ça. Malraux l'a dit bien mieux avant moi. Et les œuvres communiquent. Et mon amie, justement, Judith Regel, voyait dans les lions de Chauvet un rapport avec les porteurs de croix de Piero della Francesca dans sa fresque de la légende de la croix à Arezzo. Donc ces rapports ne sont pas, disons, gratuits. C'est quelque chose qui est induit par les œuvres mêmes.
Mais c'est
et
vrai.
Par la sensibilité de celui qui les regarde.
Oui, la sensibilité, mais aussi sa connaissance, je veux dire. Oui. Chacun, si vous prenez un enfant, il n'a pas d'acquis culturel, et il verra peut-être autre chose.
Oui, sans doute,
intéressant. Mais est-ce que, parce qu'on parle beaucoup, enfin, les travaux des préhistoriens, ça fait des dizaines et des centaines d'années, enfin... peut-être pas des centaines, mais des dizaines d'années qu'on réfléchit sur pourquoi ces hommes et ces femmes préhistoriques ont éprouvé le besoin de peindre.
Oui.
Alors, je sais qu'une des dernières idées, c'était peut-être des lieux de cérémonie. Enfin, moi, j'ai un petit peu de mal à le croire, mais...
C'est difficile parce que, comme il n'y a plus d'écriture et plus de tradition orale, ça s'est perdu parce que 30 000 ans, c'est beaucoup. On en est réduit à l'interprétation. Alors même si on fait énormément de progrès dans la description et dans l'étude de ses peintures, le mystère subsiste.
Mmh. Mais
et
peu importe,
et quand pourquoi vous voyez, par exemple, la scène du Puy de Lascaux, le nombre d'interprétations qui ont ouais été faites, c'est il y a d'ailleurs un livre écrit par un anthropologue là, dont je me suis servi aussi pour écrire le texte final. C'est, je sais pas, des dizaines d'interprétations différentes. Alors mmh, évidemment, il y a le chamanisme, les rites de chasse, enfin toutes sortes de voilà d'interprétations. Donc
oui, mais ça peut être simplement que l'être humain a besoin de s'exprimer par.
Oui. Par là, art. Je pense que pour ce qui est des peintures aurignaciennes, il y avait certainement une dimension rituelle mmh et religieuse, certainement qu'on ressent d'ailleurs parce que ces animaux ont quelque chose de divin. Et ce qui n'est pas voilà, absurde, puisque le monde était dominé par les animaux, mmh, et certainement ces animaux dominaient les humains d'une certaine façon, en nombre, en puissance.
D'ailleurs, il y a peu de représentations donc, humaines.
Il y a très peu, de, mmh, à part la grotte de la Marche, là, je crois que c'est en Charente où on a trouvé des dizaines de représentations, mais la plupart du temps, ce qui est étonnant, c'est en particulier à Chauvet, le naturalisme et le réalisme de ces portraits animaliers. Mmh. Et par contre, le caractère fruste et de quelques rares représentations humaines, à mmh part les mains bon, négatives oui ou positives, qui sont des sortes de répliques ou de duplications de la main. Mmh. Le reste, la représentation... Mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'il n'y a pas de représentation de paysage.
Eh oui.
Alors qu'il y a le pont d'Arc, on sait qu'il existait, mmh, qui est une espèce de... Lui-même évoque d'ailleurs la forme de mammouth, si on regarde bien. Mmh. Et pas de représentation de la nature... Uniquement les animaux, donc ce sont des dieux, en fait ce sont des dieux pour moi, et ils sont divinisés, quoi. Il y a forcément, c'est pour ça que je dis qu'ils ont quelque chose de céleste, parce que c'est quand même étonnant qu'on retrouve dans le ciel, dans les constellations, l'ours, le lion, voilà, toutes ouais ces constellations portent des noms d'animaux qui sont ceux de la grotte Chauvet.
Oui, c'est vrai que, et c'est pour ça que je reprends le titre de votre livre, Des graphes dans la nuit de la grotte Chauvet à Judith Regel, qui est donc décédée oui en 2020. Oui. C'est de la plus haute, j'allais dire antiquité, c'est plus oui que de l'antiquité oui à nos jours, et l'être humain est toujours, oui, toujours le même.
Et puis il y a quelque chose d'intemporel, comme je vous disais, dans l'art. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a la même émotion devant... un rhinocéros de Chauvet ou devant un tableau de Rothko ou de, mmh, ou de Pollock. Voilà, il ouais n'y a pas de différence, c'est de la grande peinture. Mmh. Alors évidemment, la peinture, bon, c'est plus... actuellement, c'est peut-être... Bah, elle est toujours vivante, mais il y a des tas d'autres formes d'art qui se, mmh, qui se manifestent, qui n'ont plus grand-chose à voir avec la peinture.
Oui, et puis j'en ai parlé dernièrement avec Pierre Parsus, qui va mmh avoir 100 ans cette année, la marchandisation de l'art oui a tout voilà même énormément changé les, oui, les aspects. Et Judith Regel, donc, que vous avez très bien connue, mmh, au point de départ, vous ne pensiez pas en parler dans votre livre.
C'est-à-dire, je lui avais déjà dédié le texte sur la grotte Chauvet. Je sais qu'elle avait beaucoup regretté de ne pas pouvoir visiter mmh elle-même la grotte, parce qu'elle était passionnée par la peinture préhistorique. Elle avait visité Lascaux, je crois, à l'époque où c'était encore possible. Et là, le fait qu'elle soit décédée juste au mois d'août dernier, mmh, que ce livre était bien avancé, j'ai quand même tout d'un coup eu envie de lui rendre hommage en prenant conscience de ce que sa peinture avait combien il y avait de liens entre sa peinture et cette peinture préhistorique. Mmh.
Alors, on a peu parlé de l'enterrement d'Ornans, qui m'a un peu surprise, mais oui peu importe, hein, je pense
oui,
que...
Oui, ben, en fait, pour résumer, si vous voulez, j'ai eu l'idée que c'était... On avait affaire à deux cérémonies des adieux, mmh, hein, aussi bien à Chauvet mmh qu'à pour Courbet. Pour mmh Courbet, c'est évident, puisque il s'agit d'un enterrement.
D'un enterrement, oui.
Et, mais pour Chauvet, j'ai eu cette intuition que c'était un moment où l'homme... faisait le deuil de sa condition animale, mmh, quittait un petit peu la tribu des animaux pour entrer dans la grande histoire humaine. Mmh. Et en fait, avec tout ce qu'il y a de formidable et en même temps de très préoccupant, surtout actuellement avec bon, mmh, l'Anthropocène, on voit que c'est pas quelque chose et de
oui
très simple. Et voilà, donc ce parallèle existait pour moi déjà.
Alors, j'ai envie de conclure, enfin, peut-être que ça va vous trouver ça saugrenu, mais Baume-Latronne, il n'y a pas de facsimilé, c'est moins connu alors que c'est beaucoup plus ancien.
Oui.
Quelle est votre impression, votre avis, vous, sur le facsimilé de Lascaux, sur le facsimilé de la grotte Chauvet? Il y a ceux qui sont pour, il y a qui sont contre, c'est un côté très touristique. C'est un
oui,
côté très...
mais écoutez, moi, personnellement, je préfère les livres. De reproduction. J'ai beaucoup travaillé, d'ailleurs, quand j'ai écrit le texte sur Chauvet, j'ai beaucoup travaillé avec des livres et des reproductions.
C'est
sur
une question
les
de génération, je vais dire.
Oui, mais j'ai visité quand même le fac-similé et je dois dire, mais je ne devrais pas le dire, parce que c'est vrai que j'ai eu le privilège de visiter la vraie...
Vous ne pouviez qu'être déçu.
Voilà, je ne pouvais... Pour moi, tout était faux, quoi. Tout était assez réaliste, mais faux. Et c'est pas du tout pareil que d'être devant les vraies œuvres. C'est comme quand on va dans un musée et qu'on voit le vrai tableau de Carpaccio ou de Rembrandt.
Oui, mais moi qui n'ai pas vu l'original, je trouvais qu'il y avait tout de même un cheminement intéressant. Oui. On arrivait...
c'était
des petits groupes, tout de même.
Oui, c'est ce qu'on peut faire de mieux avec du faux. Voilà, Et en fait, c'est vrai que ça donne une bonne idée de ce que sont les œuvres in situ. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, la topographie de la grotte Chauvet n'est pas du tout respectée.
Bien sûr.
Elle a été réduite à 3000 m², je crois. Or, elle a un sens, cette topographie,
bien
dans
sûr.
La visite. Parce que, la salle des lions est très, très loin de l'entrée, comme très souvent dans les grottes préhistoriques. Les œuvres sont loin de l'entrée naturelle.
Il y a une hiérarchie qui
oui, il y a une initiation,
un
parcours initiatique, on va dire. Oui.
Ben merci Jean-Jacques Salgon. Vous dites amateur, mais un amateur très éclairé et une âme, je dirais, d'artiste.
Merci, c'est gentil.
Et on se reverra, je pense, pour un prochain livre. Vous avez d'autres projets?
Oui, j'ai des projets. Enfin, il y a un livre qui va sortir bientôt d'aphorismes. Et j'ai un autre projet avec Verdi, mon éditeur habituel.
Eh bien, merci, puis à bientôt.
À bientôt.
Alliance Plus.